بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعي الإسلام نرمي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat Asr, donc accomplie dans cette masjid, pour parler quelques instants, une trentaine de minutes avant la rupture du jeûne, pour parler justement du ni'ma, de la bénédiction qu'il nous a accordée en nous permettant de répondre présent. En nous permettant de répondre présent à deux piliers d'islam. D'abord, l'accomplissement de la salat, comme on vient de le dire, et avec ça, le pilier périodique Mausami qu'on est en train de vivre, alhamdulillah, depuis 5 jours, le deuxième pilier de l'islam, on va dire plutôt le troisième pilier de l'islam, le mois béni de Ramadan. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa umma qui nous interpelle. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Et c'est un hadith qu'on avait déjà cité les années d'avant. Il est tout à fait normal de revenir sur ces principes, sur ces hadiths de base, à chaque fois qu'on démarre un nouveau Ramadan, afin qu'on prenne réellement conscience de l'importance des instants, des moments qu'on vit. Vous savez, mes chers frères, il y a le fait de vivre un moment important dans notre vie, comme le mois de Ramadan, ou comme quelqu'un, par exemple, qui va au Hajj, au pèlerinage. Ensuite, il y a la manière d'approcher, d'aborder la chose. Il y a des gens, lorsqu'ils vont au Hajj, ben, mashallah, ils se préparent spirituellement. Ils prennent des cours, ils vont lire beaucoup de livres, ils vont se préparer même sur le plan spirituel, au-delà du côté ilm, connaissance générale, connaissance religieuse. Ils vont se préparer spirituellement, pardon, par l'accomplissement de salat tahajjud régulièrement, par les dhikr, adhkar, par la lecture du Qur'an, afin que leur cœur soit renforcé, qu'ils aient un certain flux spirituel, ils aient une présence de iman, ils aient une certaine taqwa, une crainte d'Allah qui commence à entrer dans leur cœur, afin que, lorsqu'ils mettent les pieds à Makkatul Mukarrama, lorsqu'ils arrivent près de la Kaaba, ils ont déjà dans leur cœur la grandeur d'Allah. Ce qui fait que immédiatement, lorsqu'ils vont se présenter devant Baytullah, devant la Kaaba, ils vont lever les mains pour faire du'a, ils vont faire le tawaf, ils vont faire le sa'i, ils vont aller à Arafat, à Muzdalifa. On va dire qu'ils seront déjà connectés, entre guillemets, connectés à Allah dès les premiers instants. Alors qu'une personne qui, par exemple, et ça on en voit beaucoup, une personne qui va au Hajj tous les ans. Il y a des gens qui, mashallah, ils vont tous les ans au Hajj, alhamdulillah. Et donc, parfois, il y a une certaine lassitude. Et c'est irrespectueux de dire ça, mais c'est devenu parfois comme une routine. Arafat, Muzdalifa, ils enchaînent tous les ans. Et parfois, ça reste des statistiques. Leur conversation tournera autour de « Ah, cette année, il y avait beaucoup de monde, il y avait moins de monde. On a bien roulé, on a pris 6 heures de temps. L'autre fois, c'était 4 heures. Cette fois-ci, avec le métro, on a pris 40 minutes. » Bref, ça se limite à des chiffres et à des paroles générales sur des détails, sur des choses matérielles. Et ces personnes-là, ils sont au Hajj comme tout le monde, ils disent la veille, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils l'appellent les jamarats, etc. Mais ils ne profitent pas spirituellement du mois, parce qu'il n'y a pas eu une préparation spirituelle, il n'y a pas eu, on va dire, une implication personnelle, une approche correcte de l'importance des fadha'il, des vertus du moment qu'il allait vivre. Donc c'est la même chose pour le mois de Ramadan. Tandis qu'une autre personne, comme on a dit, la personne qui s'est préparée pour le Hajj, il a économisé pendant longtemps, il a appris pas mal de choses, il a pris des cours, il s'est renforcé spirituellement, il s'est éloigné des péchés dès le départ, pour qu'il trouve la lumière d'Allah de son cœur, la grandeur d'Allah de son cœur. Mais quand il se présente dans des endroits, on va dire que les capteurs sont au top. Ces capteurs spirituels sont au top. Donc quand la rahmat d'Allah descend, la personne va en profiter immédiatement. Et ça on le voit malheureusement. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est ce qu'Allah met dans notre cœur. Lorsqu'on arrive à Arafat, peut-être parce que le Hajj est proche aussi, il y a des gens qui s'ennuient. Allah musta'an. Ça c'est terrible ça. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Alors quand il fait, il nettoie. Il chasse moustiques. Il nettoie, il trouve un place pour assise. Il s'en promène et tout. Et allez, la personne a du mal à se connecter. Mais pour moi, c'est une catastrophe ça. Yahri, tu es venu au meilleur endroit, à ce moment précis, pour lever les mains, et tu n'arrives pas à te concentrer plus de 10 minutes dans les doigts. C'est parce que le cœur n'est pas prêt.
Parce que le iman est là. Il a la ilaha illallah, Muhammad Rasul dans le cœur. Autrement, il ne serait pas là. Mais il n'y a pas cette préparation spirituelle pour vivre ces moments intenses, pour profiter de ces rahamas, de ces bénédictions qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur ces assemblées et de bénéficier tout simplement d'être présent de cet endroit magnifique à ce moment exceptionnel. Alors que d'autres, dès qu'ils arrivent, ils posent le valise, leurs affaires, posent le musalla, le sajjada, ils s'installent et lors du wukuf, depuis l'après-midi, ils commencent à faire des doigts, des adhkar. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas une seconde. Ils ne perdent pas une seconde. Ils profitent du premier moment jusqu'au ghuroub, jusqu'au coucher du soleil. Et ils pleurent, ils demandent des doigts, ils font des adhkar. Ils sont connectés à fond, même si le wukuf dure 5, 6 ou 7 heures de temps, ils sont à fond. Ils sont concentrés parce qu'il y a une préparation psychologique, spirituelle et sur le plan ilmi, sur le plan connaissance religieuse du moment qu'ils vont vivre. Pareil pour le mois de Ramadan. Lorsque le prophète dit « si les gens savaient ce que le mois de Ramadan comportait, contenait comme bienfait, comme vertu, ils auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan ». Les savants disent que le prophète commence cette phrase avec « si les gens savaient ». Ce qui prouve qu'il est nécessaire de connaître ce mois. Il est nécessaire de connaître qu'est-ce qu'Allah, premièrement, attend de nous durant ce mois. J'aurais dû dire, premièrement, pourquoi Allah a prescrit ce mois de Ramadan. Deuxièmement, quelles actions je me dois de faire durant ce mois. Troisièmement, quelles sont les actions qu'est-ce qu'Allah attend de moi. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi pendant ce mois de Ramadan. Et enfin, quel changement ce pilier de l'islam doit normalement engendré dans chaque personne, chaque croyant, chaque croyante. Quel doit être mon état d'esprit après le mois de Ramadan? Si une personne, mashallah, il se concentre un peu sur les kutub, les livres qui parlent des vertus du mois, et il développe vraiment un rapport personnel avec ce mois, il développe sa spiritualité, il se fixe des objectifs, ben mashallah, la personne va vivre un mois magnifique. Autrement, on va le vivre comme une routine. Tous les ans, Ramadan y arrive, et on va juste dire que cette année fait bon, cette année, voilà, ta vie passe bien, cette année m'a pas faim, cette année, etc. Et on ne comprendra pas quelle lumière il y a durant ce mois. Donc, toutes les personnes ici présentes vivent le même mois. Et cette année, en plus, on pourrait rajouter que dans le monde entier, les gens vivent le mois de Ramadan au même moment. Le Ramadan a commencé le même jour, il terminera, maintenant en fonction de la vision de la lune. Mais la bonne nouvelle également, parenthèse sur parenthèse, c'est que la nuit du destin sera la même dans le monde entier. Et c'est très rare ça. C'est très rare qu'à La Réunion, en France, à Makka, à Madina, on commence le mois de Ramadan en même temps. Très souvent, tous les ans, il y a les questions classiques qui reviennent. Oui, mais si à Makka, ce soir, c'est impair, ici, c'est pair, est-ce qu'il n'y a pas un d'entre nous qui loupe la nuit du destin, etc. Et bien, on a déjà donné des explications, hein. Ça, c'est le masala est très clair. Mais au moins, cette année, cette question ne se posera pas. Au même moment où nous, on cherche les nuits impaires de la dernière décade, ben, nos frères et sœurs musulmans, les musulmans à Makka, à Madina, ils cherchent la nuit du destin exactement comme nous. Donc, alhamdoulilah, on pourrait dire qu'il y a une nuit du destin pour tout le monde, or que c'est toujours le cas. Donc, il y a nécessité de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et pour cela, revoir un petit peu les hadiths de base. Le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, dit que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'était adressé aux sahaba en ces termes. « Oh, mes chers compagnons, le mois de Ramadan est arrivé. Shahrun Mubarak. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a qualifié ce mois comme étant un mois béni. Mubarak, ça vient de la baraka. C'est-à-dire, c'est un mois rempli de bénédictions d'Allah. Du premier jour, le soir où on trouve la lune, jusqu'au soir où on trouve la lune de Eid al-Fitr. Des premiers instants de la journée jusqu'au soir, ces moments sont remplis de baraka, de bénédictions de la part d'Allah. Maintenant, il faut savoir puiser dans ces baraka. Il faut savoir profiter de ces bénédictions. Le prophète sallam continue, Kataballahu alaykum siyama. Allah vous a prescrit durant ce mois le jeûne, ça tout le monde le sait. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va rappeler quelques bienfaits qu'il y a pendant ce mois. Tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont grandes ouvertes durant ce mois. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées durant ce mois. Wa tughallu fihi shayatin. Les shaytans, les diables, sont enchaînés durant ce mois. Tous ces vertus-là, on les connaît. Mais il y a nécessité de se rappeler. Et enfin, il y a dans ce mois une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Hadith de Imam An-Nasa'i d'Imam Ahmed. Autre hadith, le Prophète dit: Atakum Ramadan, Sayyid al-Shuhur. prophète Ali Salat wa Salam veut dire aux Sahaba que ce mois, c'est le Sayyid, c'est le meilleur de tous les mois de l'année. Famarhaban bihi wa ahla, que ce mois soit donc le bienvenu. Et enfin, un hadith qu'on cite tous les ans, mais qui a nécessité de se rappeler, hadith rapporté par Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dans lequel il est dit qu'il y avait trois jeunes, vous connaissez le hadith, qui se dépassaient mutuellement, hein, qui se concurrençaient, dans le bon sens du terme, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a encore de nos jouants saints? Je pense qu'Inch'Allah, il y en a. Ils sont peut-être un peu cachés, ils sont très sincères, ils ne veulent pas faire par ostentation, mais il y a des gens qui, mashallah, ils essaient de se dépasser mutuellement, ils essaient de se rapprocher d'Allah jour après jour. Et ça, c'est un musulman intelligent. Parce que quand on dit jour après jour, c'est-à-dire que ce sera constant, il y aura istiqama, et il y aura certainement ikhlas. Un musulman intelligent, c'est celui qui chaque jour, quand il se réveille, il se demande qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher d'Allah, pour obtenir l'amour, le contentement d'Allah, pour me rapprocher du paradis, pour m'éloigner de la colère et de l'enfer. Pour m'éloigner de la colère d'Allah et m'éloigner de l'enfer. Ça, c'est un musulman intelligent. Et ce musulman intelligent, on le retrouve le soir avant de se coucher, parce qu'il fait un bilan de sa journée. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin pour me rapprocher d'Allah, me rapprocher du paradis? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui a pu m'éloigner d'Allah et me rapprocher du jahannam, de l'enfer? Et là, il fait istighfar s'il y a eu des péchés, et il remercie Allah s'il y a eu des bonnes actions. Parce que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal, la première chose qu'il dira aux gens qui se présentera devant lui, c'est innama hiya a'malikum, ce sont là vos actions qui ont été notées, qui ont été enregistrées en ce sens par les malaïka. Celui qui trouve de bonnes choses, falyahmadillah. Celui qui, lorsqu'il va regarder son livret de compte, vous savez que chaque personne aura son livret de compte le jour de Qiyam dans sa propre main. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Et le jour des comptes, chacun dira, Allah dira aux personnes, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Chaque personne fera ses propres comptes. Donc, Allah Azza wa Jal dira aux gens, celui qui trouve dans ce livret de comptes des bonnes actions, falyahmadillah, qu'il remercie Allah. Et donc, ce musulman intelligent de ce dunya, avant de se coucher le soir, il fait une analyse de sa journée et il essaie de voir qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et quand il voit qu'il y a de bonnes choses, il remercie Allah. Allah, merci, vous m'avez donné tawfiq, vous m'avez accepté pour faire telle chose. Oh Allah, aujourd'hui j'ai pu faire salat al-fajr en congrégation. Oh Allah, ce matin tu m'as donné la possibilité de lire Coran. Ta parole, kalamullah, après le fajr, tu m'as donné la possibilité de faire le shuruq, de raka'at ou 4 raka'at de salat après le lever du soleil. Ce sont là des bienfaits qu'Allah accorde à qui il veut. Ce sont des bienfaits qu'Allah accorde à qui il veut. Et ainsi de suite, il va énumérer les différents moments de sa journée. Et lorsqu'il arrivera au moment de tentation de péché, il va se rappeler que devant telle situation, j'ai pu baisser mon regard. Devant telle situation, je n'ai pas écouté le haram. Devant telle situation où j'avais des amis qui parlaient à tort et à travers, riba, bohtan, colporter des choses, médisance, calomnie, je me suis éloigné de ce groupe. Je n'ai pas fait telle chose. Quand j'ai vu telle personne qui avait tel bienfait que je n'ai pas, je n'ai pas éprouvé la jalousie. Je m'en suis remis à Allah. Quand il se rappelle de tout ça, il dit, oh Allah, merci. Tu m'as permis de rester loin, de rester éloigné des péchés. Ça, c'est un musulman intelligent. Et lorsqu'il voit que dans sa journée il a fait telle erreur, que ben tiens, j'ai vu tel collègue de bureau, de travail, ben je lui ai fait la bise. Et ça c'est haram. Excusez-moi, je me suis rasé la barbe, je suis allé à l'encontre de la sunna prophétique. Ça c'est haram. Lorsque je m'habillais, ma tenue vestimentaire n'était pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait de nous. Et là on ne parle pas du maître du kafni. Le kafni, celui qui met, il met pas, c'est pas le plus important. Mais je parle surtout pour nos mères et nos sœurs et nos filles. Si elles se rendent compte que ce matin je me suis parfumé, je ne me suis pas couvert les cheveux, elles doivent se rendre compte que ça c'est des cumuls de péchés. Je suis dans le mécontentement d'Allah, je subis la colère d'Allah du matin jusqu'au soir, et cela depuis combien de temps, et ça va durer combien de temps encore? Et au moment où, et là on passe de ce monde du soir avant de dormir à l'au-delà, lorsqu'on est devant Allah et qu'il va nous dire cette fameuse phrase, celui qui trouve de bonnes actions, falyahmadillah. ومن وجد غير ذلك et celui qui trouve d'autres choses, c'est-à-dire des péchés, فلا يلومن إلا نفسه, que la personne ne fait de reproche qu'à lui-même. C'est-à-dire que les péchés, c'est nous qui les cherchons. C'est pas le contexte qui veut ça, ça c'est entièrement faux. C'est pas la société qui le veut, ça c'est entièrement faux. C'est les choix de l'homme. Et ce qui fait la justice d'Allah, c'est qu'Allah a donné la possibilité à l'être humain de choisir entre le bien et le mal. Il n'y a pas une personne qui est poussée vers les bonnes actions sans qu'il ne puisse résister, tout comme il n'y a personne qui est poussée vers les péchés sans qu'il ne puisse porter résistance. Là, wallah, tout est une question de choix. Les choix que je donne à ma vie, l'orientation que je donne à ma vie et la manière que je perçois mon existence. Avant de dormir, comme on a dit là, on fait le bilan et on essaie de s'améliorer et on essaie de combler les erreurs. Et puis le jour des comptes, quand on est devant Allah, ben là, il n'y a plus possibilité de retourner en arrière. Le soir avant de dormir, si je me rends compte que j'ai fait tel péché aujourd'hui, ben le soir je me dis que demain, Inch'Allah, je ne vais plus recommencer. Et je demande, oh Allah, aidez-moi, accordez-moi votre aide et donnez-moi un tawfiq de m'éloigner de tel haram, éloignez tel haram de moi. Et on peut s'efforcer de rectifier le tir, de demander tawbah, ça c'est quelque chose, et de se dire que demain je vais essayer de changer, de m'améliorer sur tel point. Ça c'est dans la possibilité de chaque être humain. Mais le jour des comptes, lorsqu'on est devant le tribunal d'Allah et qu'Allah a déjà dit وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ, que vous aurez des reproches à faire qu'à vous-même, c'est-à-dire vous êtes les responsables et coupables de vos erreurs, là il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Il n'y a plus de possibilité de prendre des résolutions ou de demander tauba ou de faire des actions, des bonnes actions qui vont effacer ses péchés. Il n'y a plus de possibilité non plus de vivre un Ramadan qui, par les bénédictions qu'il y a de ce mois, seront comme un kafara, ils vont annuler les péchés qu'on a pu cumuler. Non. Quand on est devant Allah, on va dire que tout est arrêté, on est jugé sur ce qu'il y a dans nos livrets de compte. Donc, mes chers frères, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle les bienfaits et les vertus de ce mois, nous nous devons de répondre présent et de vivre vraiment ce mois avec intensité, avec dévotion et concentration. Et nous rappellerons donc l'histoire de ces trois personnes. Donc on avait dit, on avait quitté un peu le sujet à partir de cette histoire, trois personnes qui, jour après jour, essayaient de se rapprocher d'Allah. Et on avait dit que c'était les gens les plus intelligents. Et deux personnes, deux parmi eux, ou il y a un parmi ces gens-là, non, deux parmi ses amis, ils sont morts shahid dans le chemin d'Allah. Ils sont morts dans le chemin d'Allah. On va dire que celui qui meurt dans le chemin d'Allah, alhamdulillah, il n'a pas de souci à se faire. Tous ses péchés sont pardonnés, ça c'est clair, à l'exception des dettes bien sûr. Donc, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui ont une mort honorable. Et la troisième personne est morte plus tard, ala firashihi, sur son lit. C'est-à-dire une mort, on va dire, naturelle. C'est-à-dire une mort banale, une mort classique. C'est-à-dire, il n'y a rien de vertueux à mourir de la sorte. Mais en rêve, on vit que celui qui est mort de mort naturelle avait un grade supérieur à ses deux amis, qui pourtant étaient morts dans le chemin d'Allah. Les Sahaba ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, comment est-ce possible? Et notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a donné cette réponse. C'est ça qui nous interpelle et qui nous intéresse. Alaysa salla ba'dahuma kadha wa kadha salah wa adraka ramadana fa samahu. Il a dit, mais mes chers compagnons, ne voyez-vous pas que ce jeune homme qui a vécu plus longtemps que ses amis, ben ils ont fait tant de salat en plus. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus de namaz, plus de salat. Et il a pu vivre un ramadan en plus et jeûner intégralement. Par rapport à ces actions-là, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, il dit, oh mes sahabas, je jure par Allah, celui qui détient mon âme, que إِنَّ بَيْنَهُمَا لَأَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, que la distance qu'il y a entre le grade de ces personnes, la distance est plus grande que le ciel et la terre. Il n'y a que celui qui a vécu plus longtemps, qui a pu jeûner plus que ses amis, ben son grade est tout à fait, c'est tout à fait normal que son grade est supérieur et plus élevé parce qu'il a fait plus de prières, de salat, et surtout il a fait un ramadan, au moins en plus, un mois complet en plus que ses amis. Les savants donc attirent notre attention sur les bienfaits qu'il y a dans chaque jour, et on pourrait même dire dans chaque moment du ramadan. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience. Et pour revenir au hadith qu'on avait dit en introduction, quand le prophète sallam dit que si les gens savaient ce qu'il y avait dans ce mois, on aurait souhaité que toute l'année fût Ramadan. Alors les savants, ils nous interpellent, disent, est-ce qu'à un moment, là en plus on est à une heure de la rupture de jeûne à peu près, à ce moment-là, c'est là où on est le plus fatigué, on va dire, on a faim, on a soif, on a plus mal à la tête, d'accord? Et à ce moment-là, est-ce que quelqu'un éprouve un plaisir à ce moment précis? Théoriquement, non. On va dire physiquement, il n'y a pas de plaisir. Il y a la faim, la soif et la fatigue. Et puis en plus, on se dit que ce soir, il y a Tarawih qui va durer 1h15, on va être encore plus fatigué. Demain, c'est lundi, on travaille. Donc, si on analyse l'état physique d'une personne à ce moment, on ne peut pas se dire que cette personne-là aurait souhaité que toute l'année, les choses se déroulent de cette façon. Et d'autant plus, les savants disent, voyez que le hadith a été cité dans un contexte particulier. À l'époque des sahaba, et faire le saum, jeûner dans le ramadan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le contexte géographique, c'était encore plus dur. Parce qu'on parle du désert, le climat désertique. En hiver, il fait extrêmement froid, et en été, vous savez comment il fait chaud. Petite parenthèse, il paraît, j'ai vu une photo de Twitter, hier il faisait plus de 53 degrés à Doha. Doha, c'est au Qatar. Plus de 53 degrés. Imaginez, ceux qui sont en train de jeûner, nous, alhamdoulilah, il doit faire 22, 23, il fait très bon. Là-bas, 52, 53 degrés, c'est pas simple. Donc, mis à part ça, le Sahaba, climat désertique, et à l'époque des Sahaba, très rare que quelqu'un mange à sa faim. Très rare que quelqu'un il puisse avoir de l'eau fraîche, mashallah, ou des jus et tout ce que nous avons. Et malgré ça, le prophète dit que, oh mes compagnons, si vous saviez, vous auriez souhaité que toute l'année fût Ramadan. Puis certains savants contemporains disent que peut-être qu'à notre époque, quand il y a, comme on dit, le madja de Ramadan, l'ambiance avec l'iftar, avec la famille, avec les gâteaux, on mange en famille, bref, quelqu'un peut se dire que t'es si toute l'année, t'es comme ça, t'es belle aussi, t'es gaillard, parce que il y a une ambiance, ok. Mais à l'époque des sahabas, on rigolait pas. À l'époque des sahabas, quand il faisait chaud, et surtout quand on a quelques dates pour rompre le jeûne, il n'y a quasiment rien à manger, dans un tel contexte, on doit se resituer de ce contexte pour comprendre que malgré ces difficultés, ils auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan, tellement ce mois comporte de bienfaits, tellement il y a des fada'il, il y a des vertus. Et les savants disent, qu'est-ce qui fait que le Ramadan reste quelque chose de mystérieux? Que le prophète a besoin de dire que si vous saviez, parce que en réalité, personne ne connaît la réalité des récompenses de ce mois. Pour toutes les actions, la salat, la zakat, le pèlerinage, le prophète alayhi salat wa salam nous a informé quelles sont les récompenses. Mais pour le ramadan, Allah azza wa jal dit le hadith Qudsi très connu que le jeûne m'appartient, wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui en rétribue. Les savants disent que le ramadan comporte de tels secrets, on pourrait dire, de tels secrets, je veux dire en termes de hasanat, de récompenses, que Allah seul le sait. Et Allah garde secret les vrais thawab, les vraies récompenses de ce jeûne. Et qu'est-ce qui fait que le jeûne a un tel manzila, une telle place auprès d'Allah par rapport aux actes d'adoration? Les savants disent que le jeûne, le saum, est un condensé de ikhlas. Le saum de Ramadan, le jeûne, est un condensé de sincérité. Parce que lorsqu'une personne jeûne, il n'y a aucun signe visible. Lorsque quelqu'un prie, on le voit. Lorsque quelqu'un lit le Coran, on l'entend. Lorsque quelqu'un il donne la zakat, c'est possible qu'on le voit, etc., etc. Mais le jeûne, c'est vraiment une relation intime et personnelle entre le serviteur et Allah, premièrement. Deuxièmement, dans le jeûne, il y a la manifestation de la taqwa. Et la taqwa, on connaît le verset, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba alal ladina min qablikum, comme il était prescrit aux autres communautés, la'allakum tattaqun, afin qu'on atteigne la piété. Donc c'est l'objectif principal du jeûne. Et donc le jeûne dans le saum de Ramadan, il y a un condensé de taqwa. Et la taqwa, c'est quoi? C'est de se mettre dans une situation où jamais on désobéit à Allah. C'est que jamais je me mets dans une situation où Allah pourrait porter sur moi un regard mécontent. Les savants disent que « أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ » de mettre une séparation entre nous et la colère d'Allah. Et en état de jeûne, le croyant, la croyante s'efforce, on va dire normalement, il s'efforce de ne jamais désobéir à Allah, de ne jamais faire de péché. Des péchés que peut-être il fait régulièrement toute l'année, mais durant ce mois, il sait que ce mois a un caractère tellement sacré qui ne peut pas se permettre un écart de comportement, ni un écart de langage, ni même des erreurs par rapport à ses pensées. On essaie vraiment de s'aligner, d'être, comme on dit en guillemets, clean, de faire en sorte que depuis le début jusqu'à la fin de la journée, je ne fais rien qui peut mécontenter Allah Azza wa Jalla. Donc il y a une manifestation de la taqwa, de la crainte d'Allah. Et il y a également les trois catégories de patience qui sont condensées dans le jeûne du mois de Ramadan. Les trois catégories de patience, de sabr, c'est as-sabr fi ta'a. Premièrement, être patient dans les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi être patient dans les bonnes œuvres? C'est-à-dire que s'efforcer, on pourrait même dire se faire un peu violence, que quand on doit faire une bonne action, même si l'action elle est difficile, on le fait quand même. L'exemple au quotidien, quelle est l'action la plus dure à accomplir dans une journée, en temps normal? Cher, la prière du Fajr. Surtout en été, quand la salat est très tôt, 5h, 5h moins 10, ben il y a des fois où on se couche un peu tard, on a travaillé, on était un peu trop concentré sur notre Facebook et tout, c'est normal. Et donc quand on se réveille un peu tard, quand on se couche tard, on est fatigué le matin. Donc c'est l'action, la première action qui est difficile, un sacrifice à faire pour se réveiller, pour faire la salat al-fajr. Ben subhanallah, ce croyant qui éprouve une difficulté dans une bonne action et qui le fait, malgré les contraintes, c'est une action qui est hautement appréciée par Allah. C'est ce qu'on appelle as-sabr fi ta'a, la patience, on va dire plutôt l'endurance dans les bonnes œuvres. Et dites-moi dans quelle, entre autres, dans quelle action du mois de Ramadan on retrouve cette endurance? Dans quelle action? Que les durs, mais que, comme il dit encore, il tient bon, on reste ferme jusqu'à la fin. Salat al-Tarawih, composé soit de 8, soit de 20 rak'at, ici on fait 20 rak'at, on tient ferme, on dit que non, on tient jusqu'à la fin, mashallah, on a mal, hein, les vieux os de 20 ans, 22 ans sont déjà rouillés, parce qu'on ne fait plus de sport, on est trop occupé avec le monde virtuel, et donc on a mal, on a des crampes, comme on dit, gratte partout, la tête il gratte, le dos il gratte et tout, l'imam il y a passé vite, le temps il passe, mais on reste ferme, c'est ce qu'on appelle sabru fit ta'a, malgré que c'est dur, malgré qu'on est fatigué, malgré qu'on a envie de sortir, d'aller boire de l'eau, aller marcher, se dégourdir les jambes, on dit non, Allah m'a prescrit cette prière, elle est spécifique à ce mois, je le fais malgré les difficultés. Ça c'est une action aimée, appréciée par Allah. Faire preuve d'endurance dans les bonnes œuvres. Donc cette action, cette sifa, cette qualité, sabr fi ta'a, elle est présente dans le mois de Ramadan. Il y a la deuxième catégorie de sabr, de patience également, présente dans ce mois, c'est as-sabr anil ma'asiyah. Faire preuve de patience face au péché. Là, je pense que c'est plus clair. Quand on a envie de regarder quelque chose de pas bien, on se contente, on dit astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas parce que il y a la plus belle fille du quartier qui passe, ou il y a une image sur internet, ou sur la télévision, ou dans un magazine, ou peu importe, que je me sens obligé de regarder. Ou c'est pas parce qu'il y a le dernier clip de Booba, ou il y a le dernier Uncut, ou il y a le dernier je sais pas quoi qui passe dans le bus, et que je me sens obligé d'écouter, de l'accompagner, de un peu rythmer tout là, wallah. Dans ce moment-là, je me dis que non, ça c'est haram. Dans ce mois, je ne peux pas me permettre. C'est ce qu'on appelle as-sabr anil ma'asiya. Faire preuve de patience quand on a envie de faire quelque chose de pas bien. Vous voyez quelqu'un, vous voyez quelque chose à manger et tout, vous savez que c'est douteux, c'est pas halal. Vous dites que non, je préfère prendre quelque chose de végétarien plutôt quelque chose de douteux. On ne sait pas d'où provient telle chose. C'est ce qu'on appelle sabr anil ma'asiya. Faire preuve de patience dans ce qui est prohibé, dans ce qui est interdit. Et ça, c'est hautement apprécié par Allah. Et quand on a un jeune homme de 17-18 ans qui est au lycée et qui, mashallah, il est beau, bien constitué physiquement, il a tous les atouts, et qu'il reçoit, on va dire, les invitations d'une jeune fille, hein, il se fait draguer, parce que d'une joie c'est dans l'autre sens également, qu'une jeune fille drague, essaie de l'amener un petit peu dans son jeu, et il sait qu'il suffit qu'il claque les doigts, que la fille est avec lui là où il le veut. Mais que la personne se dit que je suis mu'min, je suis croyant, je crois en Allah, je crois au paradis, je crois en enfer, je crois au malaïka qui inscrivent mes actions bonnes comme mauvaises, je crois au jour où je serai dans la tombe et que mes actions seront près de moi, je crois à ce moment où je vais être devant Allah ressuscité avec mes actions, et donc je ne peux pas me permettre de faire ce péché. Exactement comme ce jeune homme dans l'histoire de la grotte, au moment de faire le zina, il s'est dit que non, j'ai la crainte d'Allah, et il s'est éloigné. Exactement comme Youssouf alayhi salam dans le château avec la reine, qui est une princesse, elle était jeune et magnifique, elle était belle, il s'est éloigné du haram. Donc, pour revenir, sabr anil ma'asiya, cette personne qui face au péché, alors qu'il peut le faire. Ma'al qudra, sabr anil ma'asiya, c'est quand on peut le faire et qu'on ne le fait pas. Et que la seule chose qui nous empêche de faire le péché, c'est l'amour et la crainte d'Allah. Ça, c'est les meilleures des actions qu'un être humain puisse faire. Et on pourrait dire que ça prouve encore plus la présence de iman que l'accomplissement d'une bonne action. Parce que la bonne action, on peut le faire parce que tout le monde le fait. Tout le monde vient à la salat. Je me sens mal de rester à ma maison devant la télévision alors que mes voisins, ils descendent, ils entendent le, j'entends le adhan, le micro, je vois mes voisins descendre l'escalier, passer près de chez moi, je me sens bête et mal de rester près de mon écran de télévision. Et donc, il y a des fois, on fait une bonne action parce qu'on suit la masse. Et puis, on se juge, hein, ça, c'est pas nous qui le font. Mais face au péché, face au plaisir, quand personne ne vous voit, et que la seule chose qui vous fait reculer, c'est l'amour et la crainte d'Allah, on va dire que ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est les sifat, ça, c'est les qualités du croyant. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils parlent de l'éloignement des harams, des choses harams, ils prennent comme exemple le regard. Parce que le regard, c'est le péché le plus rapide. Et c'est une flèche parmi les flèches empoisonnées des shaitan, comme le cite le hadith. Et le regard, c'est le péché le plus discret. On peut regarder quelque chose de haram en une fraction de seconde sans que personne ne vous voit. Mais celui qui, même dans ce péché accessible, ce péché qui est gratuit, qui ne nécessite aucun effort, la personne, il ressent la grandeur d'Allah et la crainte d'Allah, on va dire que ça, c'est vraiment un homme pieux. Ça, c'est vraiment un homme pieux. Et parenthèse, je pense à la 18e parenthèse, remarquez que quand on est en état de jeûne, dans le mois de Ramadan, il est très facile de contrôler son regard. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué? Ceux qui disent oui, ils ont du mal en dehors de ce mois. Vous vous êtes fait avoir. Il ne fallait pas rentrer dans le jeu. Effectivement, dans le mois de Ramadan, on trouve une certaine aisance à contrôler son regard. C'est comme si c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas que les filles sont moins belles durant le mois de Ramadan. Ça ne veut pas dire qu'elles sont très belles en dehors non plus. Ça ne veut pas dire qu'on voit moins bien parce qu'on a faim, on a soif. La vue baisse, abadan. C'est que le iman est renforcé. C'est qu'il y a la lumière, il y a un nour. Et ça, on ne se rend pas compte. Mais il y a une telle lumière qui est dans notre cœur. Le iman atteint un tel degré que faire les bonnes actions, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Et toute la famille veut faire de bonnes actions. Même les enfants, ils veulent venir à masjid, ils se battent pour faire carême, etc. C'est-à-dire qu'il y a la rahma d'Allah, la baraka, elle est là. Elle est là et elle est dans les cœurs. Ce qui fait que les gens, ils font de bonnes actions. Ce qui fait également que rester éloigné du haram devient facile. Parce qu'il y a des rahmas qui descendent. Et parce que également les shayatines sont enchaînées. C'est ce shaitan qui te dit, Katsala, ça l'enforme. C'est shaitan qui vous pousse à faire les péchés. Et ce fameux iblis, ce fameux shaitan, il est enchaîné. Donc, la deuxième catégorie de sabr, être patient face au péché, ben cette action-là, elle est omniprésente durant le mois de Ramadan. C'est ce qui fait que ce mois et cette action, c'est magnifique. Et la troisième catégorie de sabr, de patience, c'est la patience face aux difficultés. La faim, la soif, la fatigue, on ne se plaint pas, on ne crie pas, on ne va pas manifester notre mauvaise humeur avec nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques, ou nos inférieurs hiérarchiques, si on pouvait dire, ou notre femme, ou nos enfants, parce que mal à faim. Non. Et le prophète m'avait dit également, hadith, que fa'in shatamahu, si quelqu'un l'insulte, fa'yaqul inni sa'im, quelqu'un vous insulte, vous provoque, vous fait une remarque désobligeante, la personne ne doit pas répondre. Le jeûneur ne doit pas rentrer dans ce jeu et insulter ou répondre ou répliquer, non. La personne doit juste dire, je suis en état de jeûne. Ça veut dire que je suis en état de jeûne, que j'ai la parfaite contrôle, on va dire un contrôle total de mon corps, de mon esprit. Je suis, entre guillemets, je suis zen. Là, à ce moment-là, je ne peux pas me permettre de me mettre en colère. Parce que le jeûneur contrôle sa bouche. C'est-à-dire, dans le sens qu'il contrôle son estomac, je voulais dire, il ne mange pas, il ne boit pas. Mais il contrôle également ses membres. Comme il contrôle, on l'a vu tout à l'heure, contrôle son regard, ce qu'il écoute, etc. Il contrôle également ses sentiments. Il contrôle ses sentiments, il ne se met pas en colère. Pas d'écart de comportement, pas de gestes grossiers, pas de paroles grossières. Donc, cette patience également se trouve en permanence durant ce mois. C'est pour toutes ces raisons les savants, ils ont énuméré, disent que le mois de Ramadan et ce pilier, c'est vraiment une action spécifique, une action spéciale qui a donc un rang exceptionnel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous vous doutez bien, si Allah a prescrit le jeûne à toutes les communautés, comme on a vu le verset tout à l'heure, comme un kutiba ala alladhina min qablikum, ça veut bien dire que Allah azza wa jal, qui est le créateur de la machine humaine, de l'être humain, Allah sait ce qui est bon pour l'homme tant sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Si Allah a pris soin, en guillemets, de prescrire le jeûne à toute la race humaine, c'est qu'Allah sait pertinemment que ce jeûne, cette action, ce ibada, est rempli de bienfaits pour l'être humain d'une manière générale. Et dans les commentaires d'Ibn Kathir, il y a la citation de Hassan al-Basri qui rapporte qu'à l'époque de Nuh alayhi salam, il jeûnait toute l'année, tout le temps. Daoud alayhi salam, c'était un jour il jeûnait, un jour sur deux il jeûnait. Mais Isa alayhi salam, en français on appelle Jésus, il jeûnait un jour sur trois. Et ainsi de suite, tous les prophètes, tous les anbiya avaient l'habitude de jeûner. C'est-à-dire que les savants disent que dans le jeûne, il y a un bienfait énorme pour l'être humain, pour le croyant. Et ce bienfait, on pourrait le résumer avec le mot la'allakum tattaqoun, la piété, le jeûne par rapport à tout ce qu'on a cité comme action qui se trouve incrustée. Parce que nous, très souvent, dans le jeûne, on voit que l'abstinence et la prière de Tarawih. En général, pour nous, carême, ça se résume à deux choses. Le jeûne en lui-même et les prières de la nuit. Mais il y a plein d'autres choses. Ces qualités de patience, la taqwa, l'éloignement du haram, la motivation pour faire de bonnes actions, on va dire le contrôle de soi, tout ce qu'on a cité depuis 20 minutes, tout ça, ça fait partie également des actions de ce mois. Mais le musulman, le croyant intelligent, c'est celui qui va essayer de développer ça. Tandis que celui qui subit, on va dire qu'il subit le Ramadan, qui attend tout simplement et qui va suivre les mouvements de masse, les mouvements de foule. Mais pour lui, le Ramadan de 2013 sera le même que le Ramadan de 1985 qu'il a fait quand il avait 15 ans ou 14 ans. Et ce sera le même que ce qu'il va faire en 2030, en 2040. Allah musta'an. C'est vraiment un cas malheureux. Que la personne jeûne, certes, il accomplit son pilier, mais que la personne ne puisse pas profiter correctement de ce mois. Parce que dans ce mois, on peut faire jusqu'à qu'il a 35, encore deux minutes. On avait notre thématique à développer, on regardera ça pour dimanche prochain. Inch'Allah. Les thématiques, c'était les actions qui nous apportent beaucoup de récompenses, premièrement. Deuxièmement, la protection, l'immunité contre Shaitan. Et troisièmement, les actions au quotidien du mois de Ramadan qui nous permettent de faire notre tazkiyah, de faire notre propre correction. Mais ça, c'est une thématique un peu longue. On va garder pour la prochaine fois, Inch'Allah. Il y avait un dernier point qui peut se résumer en trois minutes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on est au début du mois et on ne peut pas se permettre d'attendre la fin du mois de Ramadan pour faire le rappel. Certainement, les autres imams, les autres savants, ils le font. Mais il est nécessaire quand même de le rappeler, même si on l'entend deux ou trois fois, alhamdoulilah, ce sera profitable. On doit se focaliser sur certaines actions, et parmi ces actions, il y a le jeûne, comme on a dit, faire en sorte que du matin jusqu'au soir, en plus de jeûner correctement, on parle des masa'il, on s'efforce de ne pas faire de péché, ça c'est clair. On doit se focaliser sur la lecture du Coran, mes chers frères. Ça on le sait déjà, mais on le rappelle que la lecture du Coran fait partie des actions prédominantes de ce mois. On citera que l'exemple de les hadiths sont connus, le jeûne et le Coran vont intercéder pour le serviteur, le genre des comptes. Les hadiths sont connus, on l'a entendu depuis pas mal de temps. On va juste donner un exemple en une minute, l'exemple de l'imam Ash-Shafi'i et Abu Hanifa. Ash-Shafi'i et Abu Hanifa avaient cette particularité de ces deux imams de faire 60 khatm al-Qur'an durant le mois de Ramadan. Ça c'était cité par Ibn Rajab al-Hanbali. Ce qui veut dire qu'il faisait deux khatm al-Qur'an par jour. Possible ? Mathématiquement, notre professeur de mathématiques qui est devant nous, combien de temps il faut pour lire un juz pour 20 minutes? Donc pour lire 30 juz, il faut combien? 30 fois 20, ça fait 600 minutes, 6000, attention, hein, 6000 minutes. Combien de heures ça fait? Bref, on est un peu fatigué pour le calcul mental, mais ça fait beaucoup de temps. Donc mathématiquement, deux khatm al-Qur'an n'entrent pas dans une journée. Et il faut bien qu'ils font leur salat, leurs ablutions. Mais l'expression de cette année, c'est barakatiquement, c'est possible. Sur le plan de baraka, la bénédiction Allah, mais baraka de la journée, ce sont des choses qui sont possibles. Mais ça, c'était, subhanallah, des awliya Allah, des proches d'Allah, c'est des gens qui avaient les plus hauts degrés après les sahaba. Mais les savants disent que, prenez ces gens comme exemple, qu'on fasse en sorte de faire le maximum de lecture Coran durant ce mois. Et il y a un tartib, il y a une organisation qui est possible, c'est de venir 20 minutes à la masjid avant chaque salat. qu'un homme d'un tawfiq moment de le mettre en pratique. De quelle sorte? De telle sorte qu'on puisse lire un juz, c'est-à-dire un sifara, avant chaque salat, et après namaz en général, de parler à l'extérieur, encore 20 minutes, on lit un juz, un sifara. Ce qui vous fait deux juz, deux sifara par salat. Et avec 5 salats par jour, vous ferez, inshallah, au moins, en moyenne, 10 juz par jour, 10 sifara, ce qui fait un khatm al-Qur'an tous les 3 jours. Mathématiquement, ça c'est possible. Maintenant, si on enlève salat au tarawih, le soir au tarawih, on peut pas lire, on est fatigué, au moins on fera un khatm al-Qur'an tous les 4 jours, tous les 5 jours. Ce qui nous ramènerait à au moins 6, voire 7 khatm al-Qur'an durant le mois de Ramadan. C'est quelque chose de tout à fait accessible. En plus de la lecture du Coran, les savants disent ce qui serait bien également, c'est de faire une lecture du Coran intelligente. Vous savez que le prophète m'a dit que pour Alif, il y a des récompenses lam, il y a des récompenses mim, il y a des récompenses, sans connaître les vertus de la lecture du Coran. Ce qui serait intéressant également, c'est que chaque personne essaie de lire un petit peu le Coran dans sa langue natale, dans la langue qu'il comprend en français, quelle que soit la langue, et lire les commentaires afin que la personne puisse comprendre qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Les savants disent que quand Allah dit le Coran, ya yuhal ladina amanu, ou vous qui avez la foi, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse aux sahaba? Oui. Mais est-ce qu'il s'adresse pas à nous? Oui, à nous aussi. Il s'adresse à tout le monde. Sahaba, tabi'in, tabi'in, n'importe quel croyant jusqu'à la fin des temps. Donc chaque personne doit se sentir interpellé lorsqu'il lit les versets du Coran, et il serait malheureux que quelqu'un passe sa vie sans jamais comprendre qu'est-ce qu'il lit dans Alhamdou, qu'est-ce qu'il lit dans Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Nas. Donc au minimum, en plus du temps qu'on consacre pour le Coran, au minimum, on essaie de consacrer 30 minutes par jour pour lire Ibn Kathir, apparemment c'est le seul qui traduit en français, lire un tafsir en français, des sourates, des chapitres qu'on lit régulièrement dans la salah. A dit Al-Fatiha et les dix surahs au minimum. Et puis si on peut faire plus, Alhamdulillah, Yassin, Tabarakalladhi. Mais commençons par ce qu'on lit régulièrement, afin que lorsque je vais lire dans ma salah, je vais comprendre. Et si je comprends ce que je lis, je vais avoir la concentration et la dévotion. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un croyant qui lit la salah et qui est concentré et qui fait preuve de dévotion et qui comprend qu'est-ce qu'Allah dit à travers ses versets? Donc ça, c'est un état spirituel qu'on peut atteindre. Il n'y a pas besoin d'être un alim pour ça. Il n'y a pas besoin d'être mufti pour ça. C'est à la portée de chaque personne. Également, on va essayer de se focaliser sur les prières de Tarawih. Hadith d'Abu Dharr al-Ghifari, dans l'Ikhidji Khafasa, m'a dit que celui qui fait la salah, qui reste avec le imam jusqu'à la fin, hatta yansarif, jusqu'à la fin de la prière, Allah Azza wa Jalla lui accorde la nuit passée en récompense. Donc, on essaie de rester ferme sur nos prières de Tarawih et de ne pas quitter la masjid tant que l'imam n'a pas terminé, inshallah, même si c'est dur. Et ce qu'on dit depuis quelques jours, c'est qu'il y a des moments où on est concentré, au début surtout, mais il y a des moments où on baisse l'attention. Au 12e, 13e, 14e rakat, au 15e moment donné, on décroche. L'esprit commence à vagabonder, on commence à penser à mille et une choses, mais on essaie de rester, au moins, si on peut plus être concentré, au moins on se dit que, subhanallah, je suis debout devant Allah, et c'est amplement suffisant. Je suis debout avec les mains liées sur ma poitrine, devant Allah, et c'est déjà là un cadeau de la part d'Allah. Qu'à ce moment-là, je suis en ibadah, je suis dans l'adoration d'Allah, et qu'Allah me regarde avec un regard clément et rempli de bienveillance. Oh Allah, c'est une chance de m'avoir, que tu me donnes d'être debout devant toi. Essayons ne serait-ce de penser à ça quand on est fatigué dans la salat al-tarawih. Et enfin, c'est pas la fin, mais c'est une des actions sur lesquelles on doit donner de l'importance, la sadaqa. Le prophète sallam était généreux toute l'année, mais encore plus durant le mois de Ramadan. Et quand on parle de sadaqa, c'est pas forcément des sommes. C'est pas forcément une somme colossale. C'est même quelqu'un, il a 1 euro, 2 euros, machallah, qu'il le donne. Et idéalement, c'est de donner régulièrement la sadaqa. C'est pas qu'au début du mois, tu donnes 50 euros et puis c'est bon. Essaye de donner 1 euro, 2 euros par jour. Et on va dire, la meilleure des sadaqa, et qui est en rapport direct avec ce mois, c'est de donner à manger un jeûneur. Alors ça, c'est vraiment une grande chance. Celui qui connaît une famille nécessiteuse, une famille qui n'a pas trop les moyens, qui peut donner pour le mois. Moi, subhanallah, Madina al-Munawwara. Non, moi, je connaissais des gens qui, Allah leur avait donné des moyens. Ils faisaient en sorte que, c'est comme si qu'ils prenaient en charge une famille pauvre pour le mois. Ils allaient les voir au début du mois avec un coffre rempli de victuailles, de provisions, riz, les grains, la viande, le poulet, les conserves, etc., l'huile, tout ce qu'il faut pour manger pendant un mois pour toute la famille. C'est-à-dire que ça, c'est la plus belle des sadaqas. de donner à manger à une personne pour rompre son jeûne. Maintenant, on fait en fonction de nos moyens. Et idéalement, c'est d'amener une personne à manger à la maison. Ça, ce serait une excellente action. On verra la semaine prochaine quelles sont les vertus à donner à manger un jeûneur et à donner manger un jeûneur jusqu'à ce que son ventre soit plein. Ça aussi, il y a une vertu encore plus importante. Et si on peut faire ni ça, ne serait-ce que il faut faire en sorte que de notre maison, tous les jours, il y a quelque chose qui sort en termes de nourriture pour aller vers nos voisins ou les membres de la famille. Qu'il y ait un petit plat, comme on dit, on donne soit un voisin, soit quelqu'un de la famille. Bref, il faut faire preuve de générosité et de muhabba durant ce mois. Déjà, la prochaine fois, on va parler des quatre principes clés de ce mois. Et bon, là, il est trop temps pour le faire, de parler de l'importance du suhoor et de iftar. Les moments importants de cette journée, c'est au moment où on va faire le sehri, les doigts qui sont acceptés, les anges qui font doigt pour nous à ce moment, comment profiter de ces moments importants qu'on va faire 29 fois ou 30 fois durant ce mois, et de 29 et des 30 iftar qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut demander et comment il faut profiter de ce moment de rupture de jeûne, au moment où on reçoit notre récompense. Qu'Allah nous accepte notre tawfiq de comprendre l'importance de ce mois, qu'Allah accepte nos ibadah, notre tawfiq de jeûner correctement, de faire nos actions, nos a'mal correctement, de rester éloigné du haram vraiment avec sincérité, et qu'Allah nous permette par la suite, même après le ramadan, de garder les bonnes habitudes, d'avoir constance et istiqama, parce que l'objectif du final, c'est wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, d'adorer Allah jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne notre âme, afin que lorsqu'Allah nous demandera, comme on l'a dit au début du programme, qu'est-ce que vous avez comme action de vos livrets, là on verra inshallah que de bonnes actions, il n'y aura pas de péché. Qu'Allah nous accepte. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.